École normale supérieure, savoir en multimédia.
Nous aurons d'abord le plaisir d'entendre dans quelques instants Frédéric Neff parler d'un sujet sur lequel il a beaucoup travaillé, à savoir le structuralisme ontologique. Son intervention sera l'occasion de revenir sur la question très discutée des rapports entre science et métaphysique, à travers l'épineux problème des relations entre structure physique et structure ontologique. Cette étude permettra donc d'esquisser d'emblée, dans une perspective à la fois générale et précisée par l'examen d'un débat spécialisé, l'enjeu des rapports entre les sciences naturelles et la philosophie, en interrogeant par surcroît le rôle d'une notion héritée de disciplines formelles, à savoir celle de structure, dans une analyse ontologique serrée de la nature même de la réalité.
Je ne vais pas traiter du concept d'altérité, et je vais rester, disons, à l'intérieur, plus ou moins, de la métaphysique. C'est-à-dire que mon propos sera un propos plutôt métaphysique. Cependant, j'essayerai de traiter de ce que j'appelle l'altérité métaphysique, de ce qu'on pourrait appeler l'altérité métaphysique, c'est-à-dire que la métaphysique est l'autre de la science, l'autre de la perception, mais en même temps, évidemment, ne peut pas se penser sans la science et la perception. Voilà, donc je commence. La science est pensée comme l'autre de la perception et la métaphysique comme l'autre de la science. Je traiterai de ce dernier rapport d'altérité, donc métaphysique-science, du point de vue du réalisme scientifique et du réalisme métaphysique. J'examinerai ce que le réalisme métaphysique peut attendre d'un tournant structural en décrivant et évaluant les structures ontologiques. Donc ma démarche est assez simple, c'est que le réalisme scientifique a buté sur des problèmes, disons, vraiment extrêmement importants, d'où l'introduction de la notion de structure. Et parallèlement, en métaphysique ou en ontologie, on a introduit ce qu'on appelle les structures ontologiques. Donc, mon périmètre, pour prendre un mot qui est devenu très populaire ces temps-ci, mon périmètre théorique est un périmètre, disons, structural. Alors d'abord, le réalisme scientifique et ses problèmes. Premier problème, ce qu'on appelle le problème du changement scientifique et l'induction pessimiste. Alors le problème du changement scientifique, je vais en parler de manière plus précise, mais je peux dire deux mots de manière plus générale, c'est simplement que si effectivement il y a changement dans la science, il est difficile de maintenir un réalisme scientifique, puisque des choses auxquelles nous nous sommes engagés d'un point de vue réaliste pourraient, dans un second temps, effectivement, ne pas être retenu par la science. Bon. Et l'induction pessimiste, c'est l'induction du présent au futur. C'est-à-dire que si nous admettons cette objection, alors des choses que nous pensons actuellement, disons, vraies, pourraient se révéler dans le futur fausses, et à ce moment-là, le réalisme scientifique qui porte actuellement sur, disons, des théories ou sur des concepts pourrait ne pas être véritablement fondé. Le réalisme scientifique qui s'oppose au conventionnalisme, à l'empirisme constructif ou à l'instrumentalisme bute sur un problème. Donc je vais reprendre ça de manière plus précise. Si dans le changement de paradigme scientifique, il semble que si une théorie, par exemple la théorie de la lumière, réfère à des entités X au temps T, et à des entités Y à T', il faudrait dire que T' est postérieur à T, alors on ne peut maintenir le principe général du réalisme scientifique qui veut qu'une théorie X réfère à des entités Y extérieures à l'esprit et indépendantes du temps. En effet, si nous acceptions ce principe à T0, le présent, nous ne pourrions déclarer que X réfère à Y, car par induction, on pourrait affirmer qu'à T', postérieur à T0, X ne réfère pas à Y, mais à Y'. Donc, ce problème, disons, a amené dans la philosophie de la science deux solutions. Une solution antiréaliste, la solution de Van Frassen, qu'on appelle l'empirisme constructif, et qui consiste à dire qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Simplement, d'un point de vue empirique, il y a des succès. Et ces succès n'impliquent pas une référence. C'est, par exemple, je ne rentre pas dans les détails. Alors maintenant, deuxième point, l'indétermination de l'objet de la connaissance dans le réalisme scientifique. Le réalisme scientifique postule que d'une manière ou d'une autre, l'objet de la connaissance scientifique a un rapport étroit, voire isomorphe, avec la réalité. Et que c'est ce rapport étroit qui fonde sa vérité, plus que les succès empiriques. On connaît le débat sur la réalité des atomes au XXe siècle avec ces deux positions. Les atomes seraient des fictions théoriques, ou bien les atomes constitueraient la matière même des objets. Cette isomorphie s'appuie sur le principe de Helmholtz, suivant lequel il existe une correspondance étroite entre les perceptions et les stimuli, l'inverse n'étant pas vrai. Mais cette correspondance, au niveau de notre appareil cognitif, ne garantit pas que nous ayons une certitude quant à la nature des stimuli des perceptions. Postuler quasiment a priori ou sur une base empirique insuffisante une harmonie entre notre appareil cognitif et la nature de la réalité peut conduire à l'idéalisme. Cette harmonie, c'est un thème qu'on trouve actuellement dans la métaphysique. Rien ne nous garantit que nous connaissions les choses elles-mêmes, les propriétés mêmes des choses, car les stimuli de nos perceptions pourraient être soit des aspects personnels de ces objets aux propriétés, soit des apparences phénoménales. Et là, on reviendrait à un kantisme avec une métaphysique, disons, limitée. Pourtant, le principe de Helmholtz est puissant. Et effectivement, il est intéressant. Quel est le rapport entre le réalisme scientifique et le réalisme métaphysique? Tout ceci fait que la nature de la relation entre réalisme scientifique et réalisme métaphysique est problématique. À se calquer sur le réalisme scientifique, le réalisme métaphysique risque soit de verser, alors il y a un soit de trop, dans l'idéalisme, soit dans la magie concordataire, ce que, par exemple, dire qu'il y a une harmonie, soit dans le kantisme. Il est certain que la métaphysique ne peut s'émanciper complètement de la science, car elle possède toutes deux des normes communes de désintéressement, d'objectivité et de systématicité. Mais encore faut-il que nous soyons capables de déterminer ce que la science nous donne à connaître. Évidemment, on pourrait rétorquer que ce sont les concepts fondamentaux des théories scientifiques qui peuvent servir de fondement à une connaissance théorique de la réalité, et que c'est cette connaissance théorique qu'il faut comparer avec la connaissance scientifique. À cela, on peut répondre deux choses. D'une part, on va revenir sur ce point, la science change et les théories comportent des concepts différents. Pour argent comptant, ce que je viens de dire il y a quelques instants, vers 1900, avec cette manière de faire, on aurait développé une métaphysique de l'éther. D'autre part, comment établir une ligne de démarcation entre les concepts pourvus d'une charge référentielle, comme temps, univers, et ceux qui, au moins apparemment, en sont dépourvus, comme fonction d'onde, graviton, censure cosmique? On peut évidemment répondre que la métaphysique doit simplement, dans son élaboration conceptuelle, dans ses thèses principales, ne pas aller contre la science. C'est-à-dire, à ce moment-là, on dit, bon, voilà, la science est simplement quelque chose de normatif, il y a des résultats sur lesquels on est d'accord, on ne doit pas aller contre. Ne pas être une nature philosophique qui s'affranchit délibérément des méthodes et des résultats de la science. Mais cette conception, qui transforme la science en une instance normative, voire en un appareil de censure, ne permet pas de répondre à la question de ce qu'elle nous fait connaître. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'elle nous fait connaître? Le réalisme scientifique se trouve donc devant une série de difficultés, et ceci explique que des philosophes des sciences, comme Warhol, Psylos, Lehmann, Hetzfeld, se soient efforcés de le modifier. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de rejeter l'orientation de la science d'après le réalisme scientifique, l'orientation vers la connaissance d'une réalité, ce que l'on peut voir à travers l'argument du miracle. L'argument du miracle est un argument extrêmement important qui dit la chose suivante, c'est que vu l'adéquation vraiment extrêmement fine des vérifications avec les théories, ce serait un miracle que les théories aient anticipé ça simplement d'une manière, disons, constructive. Des fois, dans la mécanique quantique, c'est sept chiffres après la virgule, les vérifications. Alors l'argument du miracle dit, il n'y a pas de miracle dans la science. Il n'y a pas de miracle, d'ailleurs, quelquefois, il n'y a pas de miracle, c'est physicaliste, il n'y a pas de miracle. Si on ne veut pas expliquer ça d'une manière vraiment qui montre une correspondance, quelle qu'elle soit, alors il faut effectivement un miracle. Or, il n'y a pas de miracle. Donc, voilà. Hein, c'est ça l'argument du miracle. Et l'argument de la corroboration qui est très proche de l'argument du miracle. Il s'agit d'insister. L'argument de la corroboration, c'est que petit à petit, on affine cette correspondance. Et là aussi, on dit que ça ne serait pas possible si, etc. Il s'agit d'insister sur la relative indétermination de l'objet de la connaissance scientifique à travers le changement et sur le risque de discontinuité radicale qui détruit toute possibilité d'une ontologie de la science, comme on peut le voir dans la tradition bachardienne. Ça, c'est une remarque quasiment culturelle, mais on le voit dans la tradition française de philosophie de la science. Alors, on peut caractériser le passage, maintenant, le réalisme scientifique structural. D'abord, le déplacement de la nature à la structure. On peut caractériser le passage du réalisme structural au réalisme structural scientifique. Du réalisme structural scientifique comme un passage de la nature à la structure. C'est Warhol, dans son article fondateur, qui le dit. Et c'est très très bien dit. C'est-à-dire qu'effectivement, on passerait de la science comme recherchant la nature des choses, à la science se contentant de connaître leur structure. Alors que le réalisme scientifique cherche la nature de ce qui est connu, les objets, par exemple, les propriétés, le réalisme scientifique structural caractérise ce qui est connu par la science comme de l'ordre de la structure. Il ne s'agit pas de soutenir que la structure est un objet de connaissance, comme le photon ou le proton, mais qu'une structure peut être commune à deux théories, à deux paradigmes, pour assurer la continuité de la science, pour éviter des fossés entre les paradigmes. L'argument est donc celui du changement. S'il n'y a rien de commun entre deux théories et paradigmes, comment assurer que, conformément au réalisme scientifique, la science décrit la réalité? Ou alors, il y a une possibilité, c'est, disons, une ontologie historique, l'ontologie de Hacking. Mais j'en parle pas ici. Mais ça serait une possibilité. Dire oui, d'accord, il y a des changements vraiment de paradigme. Chaque fois, il y a une ontologie. Et l'ontologie peut être historique, ça peut être que l'histoire de ces paradigmes ontologiques. Il y a un livre de Hacking là-dessus, mais ça n'a pas donné beaucoup, beaucoup de résultats. Warhol a repris, et apparemment, l'expression de structuralisme scientifique et donne l'exemple suivant, canonique, dans le champ du réalisme scientifique structural. Si nous considérons l'optique de Fresnel, fondée sur l'idée d'éther, et celle de Maxwell, fondée sur l'idée de champ électromagnétique, fondée sur la nature électromagnétique de la vibration lumineuse, nous observons un changement radical entre les deux théories. Et c'est le concept de structure qui permet de saisir ce qui est commun aux deux théories. Par exemple, la théorie ondulatoire de la lumière. Là, vraiment, c'est résumé, mais il y a un exemple qui est très intéressant. Remarquons en passant que Warhol affirme que Fresnel s'est complètement trompé sur la nature de la lumière, mais que cela n'a pas annulé le pouvoir prédictif de sa théorie, parce qu'il avait en vue sa véritable structure. Ça, c'est très très intéressant. C'est que si on distingue effectivement nature et structure, on s'aperçoit que ce qui effectivement peut être le plus important, c'est de ne pas se tromper sur la structure. On peut se tromper sur la nature. Le réalisme scientifique structural de Warhol est la réponse à l'objection du changement. Ce réalisme de Warhol est donc une réponse à l'objection du changement et à l'induction pessimiste. Et donc, ce n'est pas une référence directe à l'indétermination de l'objet de la connaissance scientifique. Ce qu'on pourrait résumer dans certains types de philosophie comme « connaissons-nous le fond des choses ou les phénomènes ?» Pour comprendre ce point, il faut préciser ce qu'on entend par structure. Il est remarquable que ce concept, le plus souvent, n'est pas défini. Certains le considèrent même comme un primitif. C'est aussi le cas en métaphysique. Même dans le livre récent de Theodore Sider, Writing the Book of the World, qui pour une large partie défend une métaphysique de la structure, on cherche une définition de la structure. Je ferai donc l'hypothèse suivante. Il existe une différence d'approche entre les philosophes des sciences, qui comme Warhol s'en tiennent le plus souvent à un réalisme scientifique, structural, épistémique, Ils ne s'engagent pas dans l'ontologie. Et les métaphysiciens, ce qui concerne la structure. Chez les premiers, donc les philosophes des sciences, les structures de théorie sont peu ou prou identiques à celles qui sont utilisées dans ces théories. Dans la métaphysique de la structure, il faut donner une définition de la structure qui soit à la fois valide pour la science et pour la métaphysique, pour des raisons qui, je l'espère, sont devenues évidentes, à partir de ce que j'ai dit sur le réalisme scientifique. La quasi-définition, qui n'en est pas une, au sens strict, mais qui comporte quand même quatre points caractéristiques de la structure, se trouve dans Sider, et je la donne. Discerner la structure signifie discerner des patrons, patterns. Patron, je crois que c'est le mieux, hein, pour patterns. Cela signifie dégager les bonnes catégories pour décrire le monde. Vous voyez, chaque fois, c'est un point. Cela signifie découper la réalité aux bonnes articulations. To curve reality at its joints. Pour paraphraser Platon. Je ne vais pas faire l'académie vraiment sadique et dire « Alors, c'est où dans Platon ?» Oui, c'est dans le fait. C'est dans le fait, dans 205. Bon, bref. Alors, cela signifie enfin rechercher comment le monde est fondamentalement, par opposition à la manière dont nous en parlons et dont nous pensons à son propos. Alors ça, c'est très intéressant. Rechercher comment le monde est fondamentalement, comment il est, quoi, comment il existe fondamentalement, par opposition à la manière dont nous en parlons et nous pensons à son propos. C'est donc, c'est prendre une position diamétralement opposée à celle, par exemple, de Strawson ou de Wolff. Francis Wolff, dans son livre qui s'appelle « Dire le monde ».
Oui, c'est ça. «
Dire le monde », c'est exactement ça. Hein. C'est lui, ce qu'il veut, c'est comment on parle et comment on pense à propos du monde. C'est un projet très intéressant. Mais pour Sider, évidemment, le projet structural n'est pas... c'est plutôt d'essayer de voir ce qu'est le monde. Theodor Sider souhaite, avec les structures métaphysiques, le terme n'est pas de lui, aller plus loin que la théorie des universaux de Armstrong et la théorie des propriétés de Lewis, ce qui indique bien sa perspective. En effet, les deux plus grands métaphysiciens, d'ailleurs analytiques, Armstrong et Lewis, résolvent le problème, disons, de la nature de la réalité. Armstrong, avec une ontologie des états de choses, et chaque état de choses étant finalement une combinaison d'un particulier universel, et Lewis avec la théorie des propriétés naturelles qui divise la réalité. D'ailleurs, quand Sider dit « cela signifie découper la réalité aux bonnes articulations », en fait, c'est une reprise de Lewis. Mais, en fait, Sider veut aller plus loin. Pourquoi il veut aller plus loin? C'est parce que ni Armstrong ni Lewis ne se préoccupent réellement de ce que le monde est. Oui, c'est plus la composition météorologique des mondes. Armstrong, il reprend Hume, en fait. Et donc, est-ce que la question se pose réellement? Je ne sais pas. Bon, alors, les structures, de manière plus générale, et ce n'est pas contradictoire avec Sider, sont des ensembles d'entités et de relations ou d'opérations. C'est très simple, mais c'est, je pense, exact. Par exemple, la structure de la famille restreinte, c'est bien qu'il n'y ait pas l'anthropologue dans la salle, parce que là, je me ferai assassiner, est composé de trois entités, le père, la mère, le ou les enfants, et de deux relations, celle de filiation et celle de consanguinité, et deux opérations d'union et d'engendrement. Hein, bon, c'est très simple, mais... Bon. Une structure physique n'est pas fondamentalement différente. Par exemple, pensons à la structure ultra simple, A, B, D, où D est une relation de distance sur A et B, La difficulté, il manque un là. La difficulté de cette ontologie de la structure est qu'elle ne dit rien, en fait, des termes des relations. D peut être une distance entre des points ou entre des régions, par exemple. On peut spécifier qu'il s'agit de l'un ou de l'autre. Mais l'ontologie ou la métaphysique de l'espace est probablement différente. Cela a conduit à une forme subtile d'antiréalisme, l'antiréalisme structural. Cet antiréalisme structural nie que nous puissions connaître les relata des relations dans les structures, et que tout ce que nous connaissons des structures, c'est leur relation. Et donc que nous ne pouvons rien connaître de ce qui n'est pas la relation d'une structure, sans que nous puissions non plus connaître véritablement les termes de la structure, ou plus exactement les termes des relations qui fondent la structure. Hein ? Alors maintenant que j'ai, disons, rappelé, que j'ai rappelé le, un petit peu ce qu'il en est hein, des structures dans la science et du réalisme scientifique structural, en essayant de ne pas, disons, exagérer ni dans un sens ni dans un autre, je vais parler des structures ontologiques. Les structures ontologiques. Alors, première série de considérations, le réalisme métaphysique et les structures ontologiques. Le réalisme métaphysique, dans un premier temps, s'est tourné à raison vers le réalisme scientifique. Vous pouvez le voir, justement, chez Armstrong et chez d'autres auteurs qui se réfèrent au réalisme scientifique. Avec souvent une valeur normative. C'est-à-dire que la science nous donne des normes de méthodes qu'on doit suivre, par exemple l'économie, la simplicité, etc. Et d'autre part, des normes quant au contenu. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa métaphysique, par exemple, dirait que la matière est composée de tourbillons spirituels. Bon, effectivement, ça pourrait être une métaphysique spéculative intéressante, mais on dirait que ça n'obéit pas, disons, aux normes de ce que doit être une métaphysique. Bon, donc, d'une double manière, le réalisme scientifique, le réalisme métaphysique, s'est tourné à raison vers le réalisme scientifique. Cela pour probablement éviter les excès de la métaphysique, disons, purement spéculative. Ce dernier ayant abouti à une impasse, dont le réalisme scientifique structural pense l'avoir tiré, la question métaphysique s'est déplacée, comme on peut le voir dans le livre de Sider. Le livre de Sider est très intéressant de ce point de vue-là, puisqu'il est toujours d'accord avec l'idée qu'il faut se tourner vers le réalisme scientifique, mais le réalisme scientifique, c'est un réalisme scientifique des structures. Et donc, à ce moment-là, ce que la métaphysique peut faire, c'est en fait connaître les structures. Mais je ne suis pas sûr de ce que je dis, parce que j'ai l'impression que dans le livre de Sider, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ici, j'ai l'impression que les structures, ça a plus un poids épistémologique qu'un poids ontologique. Je crois qu'il y a une espèce d'hésitation entre les deux. C'est pas très clair. Bon, bref, je continue. Alors, le véritable problème du réalisme scientifique, du réalisme métaphysique actuel, c'est de savoir s'il peut être structural, sans hériter des défauts des métaphysiques qui affirment qu'il n'y a que les structures qui existent. Hein, ça serait, dire qu'il n'y a que des structures qui existent, qu'il n'y a que les relations, ça peut être une forme d'antiréalisme. Alors, la fin du livre, par exemple, de Pauline Personnin, porte sur les structures. On peut remarquer que ce tournant structural, à première vue, représente un avantage si on pense, par exemple, aux listes de catégories ou aux ontologies qui se contentent d'établir ce qui existe sans chercher à savoir quoi est fondé sur quoi, pour paraphraser un magnifique article de Jonathan Schaffer. En effet, une structure dans le domaine de la métaphysique devrait contenir une relation ou une opération de fondation. Alors là, je fais juste une remarque. La métaphysique ou l'ontologie, c'est tellement compliqué cette histoire aujourd'hui, je ne fais pas une nette différence entre les deux pour ce que je suis en train de dire. A existé à partir, disons, de Quine, comme quelque chose qui répond à la question « qu'est-ce qui existe ?» Et ça a été le cas pendant longtemps. Engagement ontologique, à partir des formules quantifiées de la logique, etc. Mais on s'est aperçu, et ça c'est dans les dernières années, que c'est un peu l'argument que je défends là, cet engagement nous engage à des choses dont nous ne savons rien, nous ne savons pas ce qui est important, et nous ne savons pas, donc, la formule de Schaffer, quoi est fondé sur quoi. Et pour Schaffer, disons, une métaphysique, c'est quelque chose qui cherche le fondement, plus que l'inventaire, disons, de ce qui existe. Ça, c'est très très intéressant. Ce qui le ramène un peu, évidemment, à une métaphysique aristotélicienne. Enfin, une métaphysique aristotélicienne vue par un métaphysicien analytique, c'est-à-dire vraiment l'essentiel de la relation, disons, de fondation. Alors, donc, un exemple historique de structure ontologique, c'est dommage que Luc ne soit pas là, est celui du carré ontologique, tel qu'il émerge des catégories, retravaillé par les commentateurs, et tel qu'il a été réélaboré par Lowe, Jonathan Lowe et Luc Schneider. Ce carré ontologique que tout le monde connaît, qui dérive du carré logique, mais qui est différent, ce carré envisagé comme une structure comporte des classes d'entités et des relations entre ces classes. Il y a aussi une relation de fondation dans cette structure, ce qui fait plaisir à Schaeffer, hein, puisque Schaeffer veut une métaphysique, maintenant il a la fondation. Il y a donc une relation de fondation dans cette structure, dans la mesure où, par exemple, les accidents individuels sont fondés sur les substances. L'intérêt de ce réalisme structural métaphysique est multiple. Tout d'abord, il permet de ne pas identifier ces structures avec celles du réalisme scientifique structural, et donc de ne pas tomber dans ce que Claudine Tiersenin appelle une forme de scientisme. Là, je suis entièrement d'accord avec elle. Ensuite, les structures. Mais pour moi, le scientisme, vous voyez, c'est l'identification des deux types de structures. Ensuite, les structures du réalisme scientifique, je m'y perds, structural métaphysique, ne sont pas identifiées à des structures sémantiques. Et donc, on évite la réduction linguistique. Enfin, ce réalisme métaphysique, structural, permet une comparaison des structures ontologiques des différents types d'entités. Par exemple, les objets matériels et les personnes. C'est un énorme problème de savoir si l'ontologie, disons, des personnes est la même que l'ontologie des objets. Là, il y a une manière d'approcher les choses qui est peut-être plus précise. Je me prononce ici, donc, pour une pluralité des structures ontologiques sur la base d'un certain nombre de descriptions. Parce qu'on pourrait évidemment dire « Non, il n'y a qu'une seule structure. » Non, ça, vous allez voir, je vais essayer au contraire de les détailler. Par exemple, même si le temps et la modalité sont très proches, leurs structures ontologiques ne sont pas les mêmes. Car la relation d'accessibilité n'a pas les mêmes propriétés que la relation d'antériorité temporelle. Là, c'est un peu technique, et si je suis honnête, je dois dire que Pryor a essayé d'établir des correspondances entre les deux. Alors, mais en même temps, quand on lit Kit Fine, son livre sur le temps et la modalité, lui, il critique plutôt cette idée de Pryor, et il essaye plutôt de voir des différences de structure entre les deux. Bon, je laisse ça. Alors, l'objection vis-à-vis du réalisme métaphysique de l'incognoscibilité rhapsodique. Je suis très content d'avoir inventé cette expression. L'incognoscibilité rhapsodique. Une autre raison d'explorer le réalisme métaphysique structural est que le réalisme métaphysique non structural est exposé à lutter sur le caractère inconnaissable de la réalité et le caractère non systématique de l'ontologie elle-même. Le réalisme est certainement une thèse d'indépendance. Et en plus, il y a une autre définition du réalisme. Comme l'a soutenu Kit Fine, le fait d'admettre des objets et des propriétés, hein, c'est vraiment une définition du réalisme. C'est une définition du réalisme, je pense, qui est dirigée contre Quine. Parce que pour Quine, dans son nominalisme, les propriétés sont des ombres portées des prédicats et les objets des mythes. Et donc, il n'y a absolument pas cette différence entre les objets et les propriétés que d'après Kit Fine, nous trouvons dans le réalisme. Mais cette caractérisation du réalisme n'empêche pas que l'on puisse être réaliste et se heurter au caractère inconnaissable de la structure profonde de la réalité. Là, vous ne serez peut-être pas d'accord. On peut évidemment caractériser le réalisme comme un optimisme épistémique. Tu vois d'où ça vient ?
L'optimisme épistémique ?
Oui.
Non.
Ah. Ben, ça vient de Claudine Tiersenin qui en parle de temps en temps.
Ah oui, je suis d'accord.
Mais c'est un terme qu'on trouve dans la philosophie de la science et dans la métaphysique, l'optimisme épistémique. Je crois que Oui, je crois que Roger Bouivet est un optimiste, fils d'ennemi. Il m'est arrivé dans un esprit analogue de soutenir que le courage intellectuel est une vertu du réalisme. Mais cet optimisme ne peut que garantir le caractère progressif de l'investigation scientifique, pas son achèvement. Enfin, à moins d'être persien et de penser que c'est un processus asymptotique qui aura fatalement une fin, disons, un avenir extrêmement lointain. Peur s'est posé ce problème. Le problème, justement, de l'achèvement, disons, de l'investigation métaphysique. Pour lui, pour Peirce, la métaphysique est une science. Donc l'achèvement de la métaphysique, c'est l'achèvement de la science. Et cet achèvement de la science, c'est un processus asymptotique où, disons, la science est de plus en plus proche de la vérité. Et quand elle coïncidera avec la vérité, ce sera réellement le domaine de l'esprit qui se manifestera. Mais à part ça, cet optimisme ne peut que garantir le caractère progressif de l'investigation métaphysique par son achèvement, me semble juste, si on n'introduit pas une notion d'un processus, disons, justement, progressif et asymptotique. On ne connaît que peu de moyens de dégager les relations qui sous-tendent une réalité. Les modèles et les structures font partie de ces moyens. Mais les modèles sont des outils formels d'interprétation, restent donc les structures. Alors, la nature des structures ontologiques, est-ce que c'est des instruments d'explication ou des relations structurantes? Est-ce qu'on va utiliser des faits ou des tropes? J'ai encore du temps, hein, parce que... Oui. La composition des structures, parce qu'il n'est même pas là, celui qui suit.
Oh, non, on a le temps.
Comment?
On a le temps, oui.
Oui. La composition des structures ontologiques est différente chez deux des auteurs qui les ont utilisées. Lorenz Pruntel, dans Sein und Struktur, se prononce pour une composition à base de faits, et même de faits primitifs. Tandis que John Bacon, dans The Alphabet of Being, il est traduit en anglais, Pruntel, et il va traduire en français par quelqu'un. J'ai oublié le nom, tu connais ce nom? Comment il s'appelle?
Un Suisse ou un...
c'est un Suisse ou un Belge.
Oui, il m'a écrit un mail.
Tu vois qui c'est, oui. Il est en train de traduire The Alphabet of Being. Alors, et lui, John Bacon, dans The Alphabet of Being, se prononce pour une composition à base de tropes. Les structures de Pruntel sont liées aux structures sémantiques. C'est sûrement une raison de ne pas choisir les tropes qui sont dépourvues de réalisation sémantique. Pour moi, les tropes sont dépourvues de réalisation sémantique, ce sur quoi je suis en désaccord avec Friedrich Moltmann. Elle pense qu'il y a une expression linguistique des tropes. Moi, je pense que, oui, bien sûr, si par exemple je dis le sourire d'Adélaïde, c'est un trope. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une catégorie dans le langage qui exprime de manière privilégiée les tropes. J'en connais pas. Pruntel entend par les structures des structures concrètes. Et elles sont composées de faits primaires. Parce que les faits sont dotés d'une structuralité. Bacon entend, lui, par structure ontologique, des ensembles de tropes munis de relations sur ces tropes. Chez ces deux auteurs, il n'y a pas d'engagement ontologique, si l'on réutilise ce terme un peu désuet, vis-à-vis des structures. Pour Pruntel, les faits existent, mais pas les structures. Pour Bacon, les tropes existent, mais pas les structures. En va-t-il de même chez Seidel, chez lequel nous trouvons une véritable métaphysique des structures? Existe-t-elle ou met-elle en ordre le niveau profond de la réalité? Elles sont pour Seidel objectives, déterminées et explicatives. Elles relèvent, selon ses propres paroles, d'un ontologisme méthodologique et non d'un ontologisme métaphysique. Cela signifie que les structures métaphysiques, puisqu'il ne s'agit ni de structures mathématiques ou de structures physiques, ont un rôle explicatif pour expliquer comment la réalité est découpée. Mais pas de poids métaphysique. Dans la métaphysique, on trouve des faits, des fondements, pas de structure. Cela est consistant avec l'approche méta-métaphysique de Seidel. Alors maintenant, deux. Je vais essayer de détailler des types de structures ontologiques. Et c'est la partie, disons, qui est nouvelle. Enfin, je veux dire nouvelle, je crois, dans la littérature, et nouvelle chez moi. D'accord, donc vous êtes privilégié. Les structures ontologiques des particuliers. Alors d'abord, oui, pardon. Dans les structures ontologiques, je vais regarder les types des structures ontologiques des particuliers et ensuite les structures ontologiques de la réalité. Vous voyez que je suis audacieux. Mais je montrerai qu'on peut être humble et audacieux. Ça aussi, tu vois. Alors, les structures ontologiques des particuliers sont de plusieurs types. Et le travail des métaphysiciens consiste à choisir un type et à le justifier. Et je me limiterai ici à deux, les substrats et les faisceaux. Une structure ontologique de substrat est composée de porteurs des propriétés et de propriétés, et d'une relation entre ces propriétés, le substratum. La relation pourrait être, par exemple, l'attachement, l'inhérence. Les propriétés peuvent être universelles. Dans ce cas, on a besoin d'une relation supplémentaire, d'instanciation, et peut-être même de deux, si on inclut l'exemplification. Les propriétés peuvent être individuelles. Il ne faut pas confondre ces propriétés individuelles avec les tropes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le dernier cas, on est proche d'une solution qui combine tropes et substances. Une structure ontologique de faisceau. Bon, vous avez vu ce que c'est qu'une structure ontologique de substrat. J'aurais pu mettre, mettre ça sous la forme d'un formalisme, mais je ne l'ai pas fait, parce que je pensais que si je lisais le texte, ça serait difficile. Et je n'avais pas envie de faire un PowerPoint. Donc, vous voyez la structure ontologique de substrat. Donc, porteur des propriétés, propriétés, relation entre les propriétés, le substratum, et puis les propriétés peuvent être soit universelles, soit individuelles. Une structure ontologique de faisceau, introduite par Hume quand il définit l'esprit comme un faisceau de perception, comprend des propriétés qui constituent les objets et une relation de comprésence, de conglomération, ou de consubstantiation, comme disait Castaneda, ainsi qu'une relation de similarité entre les tropes. Les propriétés liées dans les faisceaux peuvent être des propriétés universelles, par exemple Russell, il pense que les choses particulières sont des faisceaux d'universaux. Par exemple, à ce moment-là, ce cahier bleu peut être caractérisé ontologiquement comme un faisceau, et dans ce faisceau, il y a l'universel bleu. Et ce qui le fait, à certains moments, aller jusqu'à dire que je perçois l'universel dans les problèmes de philosophie. Alors que ma position, évidemment, c'est qu'on perçoit des tropes. Je perçois un trope de bleu, mais je ne perçois pas l'universel bleu. Alors il faudra demander à Jérôme Dokich ce qu'il en pense. Alors, la différence... Alors, les propriétés liées dans les faisceaux peuvent être des propriétés universelles, Russell, ou des propriétés individuelles, ou tropes. Alors, des propriétés individuelles, c'est par exemple... Non, je ne rentre pas dans le détail. Ou des propriétés individuelles ou tropes. La différence entre les propriétés individuelles et les propriétés universelles, d'un point de vue structural, est que dans le cas des premières, on se situe dans le paradigme des métaphysiques du constituant. Hein, si on a des propriétés individuelles. Si on a par exemple des faisceaux de propriétés individuelles, on est dans la métaphysique du constituant. Alors que dans le cas des secondes, on peut se situer dans le cadre des métaphysiques relationnelles si on identifie des propriétés universelles à des universaux auxquels on s'engage de manière réaliste. Et à ce moment-là, dans cette métaphysique relationnelle, l'instanciation des universaux dans les particuliers est une relation très importante. On peut raffiner cette classification des structures ontologiques. D'une part, cette classification est grossière. D'autre part, elle se limite aux positions actuellement défendues de manière représentative en métaphysique analytique. Si cette dernière est une entreprise collective et progressive, l'originalité n'est pas nécessairement une valeur. Et l'image leibnizienne de la jurisprudence des thèses philosophiques a plus de pertinence. Ces structures ontologiques des objets ne sont pas réductibles à des structures mathématiques. Quoique Mormann et la compagne de Bruno Puntel, qui s'appelle Christina Schneider, et toute son équipe, ont identifié les tropes à des topologies. Et elles ne sont pas non plus réductibles à des structures physiques. Les problèmes philosophiques essentiels auxquels ces ontologies veulent donner une solution est d'une part de savoir comment les choses tiennent ensemble, non pas matériellement, concrètement, mais métaphysiquement. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une migration des qualités d'une chose vers une autre? et d'autre part de savoir comment les choses peuvent être toutes différentes les unes des autres. Pourquoi la similarité n'est jamais maximale entre deux choses. Le premier problème est celui de la cause ontologique, le deuxième celui de la diversité maximale. Les structures tropistes donnent une solution convaincante au second problème, celui de la diversité, mais ne permettent que de formuler plus précisément le premier. En effet, les tropes peuvent apparaître liées par la relation de complaisance, mais comme l'a montré Merz, cette relation de complaisance n'est pas assez forte pour assurer un lien des tropes dans l'objet. Et lui, il est allé faire des choses très très intéressantes du côté de la prédication, comme un modèle de lien, justement. Bon. Nous sommes donc dans une situation où les structures ontologiques avec substrata et propriétés universelles répondent à la première question, c'est-à-dire comment c'est attaché, et pas à la seconde, c'est-à-dire comment c'est aussi divers, tandis que les structures ontologiques de faisceaux avec tropes répondent à la seconde, on comprend bien pourquoi effectivement c'est aussi divers, mais pas à la première, on ne comprend pas exactement effectivement comment c'est attaché. Dans ces conditions, on a le choix entre deux stratégies, combiner les deux types de structures ou évaluer ce qui est le plus important, la sympathie, je risque que j'entends par sympathie, la sympathie ou la diversité. Mais le choix ne serait nécessaire que si on avait des raisons de penser que l'impossibilité de répondre aux deux questions est inscrite dans les gènes de l'ontologie, pour ainsi dire. Si nous ne sommes pas certains de cela, il est raisonnable d'explorer les combinaisons des deux types de structures, substrat avec trope, faisceau avec universel. Donc là, il y a tout un programme de recherche. Maintenant, les types de structures ontologiques de la réalité. À côté des structures ontologiques des objets qui explicitent la métaphysique de la constitution, que l'on pourrait appeler les micro-structures ontologiques, il existe des structures ontologiques du monde que l'on pourrait appeler les macro-structures ontologiques. En ce qui concerne ces macro-structures, il en existe de deux types. Les macro-structures causales, par exemple Ingarden, et temporelles, qui établissent des régularités sur les relations entre événements ou tropes. Je ne parle ici de rien de modal. Et des macro-structures profondes, qui correspondent au niveau ultime de la réalité. Par exemple, les simples. Est-ce qu'on admet qu'il y a des simples? Si on accepte cette classification, on est très simple, hein, vous avez vu ces deux pages. On est donc en présence de trois types de structures ontologiques. Les micro-structures ontologiques, substrat versus faisceau, les macro-structures causales et temporelles, celles de l'ordre du monde, les macro-structures profondes, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'en profondeur, on a des simples, on a des atomes, on a une espèce de gros machin non structuré. Si l'on accepte cette classification, on est donc en présence de... Oui, pardon, excusez-moi. Une description plus fouillée aboutirait probablement à distinguer d'autres structures ontologiques, mais ici, nous avons pris comme fil directeur la distinction micro-macro. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très simple, très préparatoire. Bon, alors maintenant, je vais... Les objections et les réponses aux objections. J'ai combien de temps?
Oh, t'as tout le temps.
20 minutes environ.
Trop long. C'est vrai. Alors, les objections contre les structures ontologiques. Première objection. Comment connaissons-nous les structures ontologiques? C'est une objection, on pourrait dire, épistémologique. Une objection épistémologique massive est que nous projetterions sur la réalité des objets ou celle du monde des structures qui ne seraient que des doubles de nos structures cognitives, celles de la perception et du langage. Cette objection classique ressortit à l'antiréalisme métaphysique. Mais si cette objection était fondée, toute la métaphysique serait fortement dépendante de nos facultés cognitives. Cette objection, à un certain sens, est trop forte, tout comme le seraient des objections constructionnistes, c'est-à-dire radicales. Objection qui ne prouve rien, comme celle rapportée par Leibniz. Rien ne me garantit que je ne rêve pas. La réponse de Leibniz a quelque chose à voir avec notre propos. Alors même que je rêverais, ah yes, il faudrait rendre raison du caractère ordonné de ce que je perçois. Et donc on est ramené au point de départ. J'adore cette réponse de Leibniz. Il faudrait rendre raison du caractère. Une objection plus subtile serait de montrer que si nous avons recouru à des structures ontologiques pour dépasser l'incognoscibilité, nous n'avons guère fait de progrès puisque ces structures sont inconnaissables. Après tout, on connaît les trous noirs par les observations et on établit leur structure d'après les observations ou des observations complémentaires. Est-ce que nous observons des tropes ? En 2006, dans mon livre « Les propriétés des choses », j'ai soutenu qu'on ne percevait pas vraiment les tropes. On perçoit quelque chose qui est très proche des tropes, mais pas les tropes. Est-ce que nous observons les tropes ? Est-ce que nous percevons les tropes ? Est-ce que nous observons les universaux, les substrats ? Cette objection est différente de l'objection linguistique. Par exemple, une objection linguistique, c'est « Est-ce que nous comprenons le sens du mot intelligible ?» Elle est dans un certain sens plus sérieuse que l'objection linguistique. La difficulté ici est de faire la différence entre connaître et observer. Nous observons les particules élémentaires, ou plus exactement des événements mettant en cause les particules élémentaires avec des dispositifs très complexes, et nous les connaissons. C'est-à-dire nous connaissons leurs propriétés. Mais nous connaissons des objets mathématiques sans les observer. Si je raisonne sur le plus grand nombre, est-il pair ou impair, je ne l'observe pas. En ce sens, les structures ontologiques sont plus proches des structures mathématiques que des structures physiques, bien qu'il ne faudrait pas les identifier. Alors, deuxième objection, à laquelle je répondrai très rapidement, le réalisme métaphysique structural ne viole-t-il pas l'humilité épistémique ? Objection éthique. Une autre objection, donc, c'est que ce réalisme métaphysique structural violerait l'humilité épistémique. Alors, on le trouve chez Kerslin, je crois. Ce que l'on entend par humilité épistémique est une vertu intellectuelle qui nous protège d'une audace démesurée. Cette vertu est souvent une vertu kantienne. Sachons accepter nos limites de connaissance et ne nous lançons pas dans des constructions échevelées. Et il me semble qu'on peut très très bien essayer de développer un réalisme métaphysique structural en respectant tout à fait cette... Il ne me semble pas qu'il y ait là une violation massive de l'humilité. Mais évidemment, il faut donc ne pas se lancer dans des constructions complètement échevelées. Je fais juste une parenthèse. C'est que dans tout ce que j'ai dit, ce qui est très curieux, c'est que je ne parle pas de Platon. Et parce que il y aurait une possibilité, évidemment, ça serait un platonisme de la structure. Mais je n'ai pas voulu le faire. J'ai pas voulu le faire aujourd'hui. Ça serait tout à fait possible de travailler, disons, dans ce sens-là. J'avais envie de relire le Timée dans ce sens. C'est-à-dire lire le Timée comme non seulement comme une cosmologie, mais comme une ontologie, et comme une ontologie vraiment structurale. Grand nombre de structures dans le Timée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Non. Si.
Alors, réponse à l'objection épistémologique. Et ensuite, réponse à l'objection éthique. La métaphysique n'est pas une science. Il est douteux qu'elle puisse être formalisée, et elle ne fait pas de base empirique solide, elle ne fait pas de prédiction. J'ai présenté ici le chemin qui va du réalisme scientifique au réalisme structural métaphysique des structures ontologiques, le but étant de voir jusqu'où on peut pousser l'idéal structural en métaphysique. Mais il ne s'agissait pas par là même de considérer la métaphysique comme une science. Donc, si elle n'est pas une science, l'objection peut être amoindrie. Si nous n'étions pas capables de dire clairement à l'intérieur d'une science comment nous avons accès aux structures, comment nous les connaissons, ce serait une objection contre le caractère scientifique du corps de connaissance dans lequel nous évoluons au moment où nous voulons répondre à cette objection. Mais dans le cas de la métaphysique, la situation est différente. La métaphysique est plus proche des mathématiques en ce qu'elle est non prédictive et non expérimentale. Cette proximité explique l'attrait des mathématiques chez les métaphysiciens, plus ou moins platonistes, mais elle ne comble nullement le fossé entre les structures ontologiques et les structures mathématiques. Pour trouver une issue à cette objection, il y a deux voies possibles. Soit attribuer à la métaphysique une connaissance non basé sur l'observation, soit admettre qu'il existe finalement une base empirique dans la métaphysique. Une connaissance non basée sur l'observation ne saurait être une intuition au sens bergsonien, puisque ce que nous souhaitons, c'est la connaissance des structures. Et justement, le propre de l'intuition bergsonienne, me semble-t-il, c'est de ne pas passer par le détail des structures. Une base empirique dans la métaphysique ne pourrait que reposer sur les expériences que nous pouvons faire de l'ordre, de la constance des objets, du passage, du temps. Il est difficile d'imaginer de véritables expériences métaphysiques au sens où il y aurait une mesure. Les expériences métaphysiques que nous connaissons sont des expériences de pensée. Alors, réponse à l'objection éthique. L'humilité intellectuelle ne caractérise certainement pas les grandes synthèses spéculatives, et l'on comprend que cette vertu intellectuelle caractérise un réalisme modeste, non dogmatique. Mais le réalisme de la métaphysique structurale est-il si immodeste que cela? Le fait de poser des structures ontologiques, qui sont les analogues des structures physiques et mathématiques sans s'y réduire, ne semble pas un geste spéculatif, outré, il faudrait dire. Quant au dogmatisme, la difficulté même de l'entreprise fait que même s'il existe au début comme une illusion des commencements, si le dogmatisme existe au début comme une illusion des commencements, il se limite rapidement. Une remarque, l'humilité s'oppose à l'orgueil et à la vanité, tandis que l'audace s'oppose à la pusillanimité. On peut donc être humble et audacieux. Alors, conclusion, j'ai donc essayé, après avoir rappelé ce que c'est que le réalisme structural scientifique, de caractériser les projets et les difficultés du réalisme structural métaphysique. J'ai examiné si l'injection de structures ontologiques allait dans le sens du réalisme métaphysique. Et après avoir répondu positivement, j'ai esquissé une typologie de ces structures ontologiques. On voit donc que s'il y a une altérité de la métaphysique, c'est une altérité de ces structures, une altérité qu'on pourrait appeler structurale.
Voilà. Merci beaucoup.